Pour introduire l'enseignement du Dvar Malchut sur la paracha Pinchas du Rabbi, on pourrait se rappeler de l'histoire chassidique avec le Rabbi Rachab. On raconte qu'un jour, un chassid, il est entré en Yechidut chez le Rabbi Rachab, il a demandé une bracha et le Rabbi Rachab lui a répondu « Je ne peux rien pour toi ». À ce moment-là, le Rabbi, il a laissé sortir le chassid et quand le chassid s'est trouvé dans le couloir, il s'est mis à pleurer. Et là est passé devant lui le frère du Rabbi Rachab. Il lui a demandé pourquoi il pleurait, et à ce moment-là, le chassid lui a répondu que le Rabbi lui avait dit qu'il ne pouvait pas le bénir, qu'il ne pouvait rien pour lui. Alors le frère du Rabbi Rachab est entré dans le bureau du Rabbi et lui a demandé qu'est-ce qui s'était passé. Et le Rabbi Rachab lui a demandé à ce moment-là de le faire entrer à nouveau dans le bureau. Et à ce moment-là, donc, le Rabbi a béni le chassid. Alors pourquoi il n'a pas béni la première fois? C'est l'enseignement profond de cette histoire. C'est que le Rabbi Rachab a désiré que le chassid devienne, soit vraiment un réceptacle pour recevoir la bracha qu'il allait lui donner. Donc il a attendu qu'il ait le cœur brisé pour être un réceptacle, pour devenir ce réceptacle-là. Et à ce moment-là, il pouvait recevoir la bénédiction du Rabbi. Donc ça s'accorde avec l'idée du discours du Rabbi Vatat et Tzavé, quand le Rabbi explique que un cœur brisé, rien n'est plus parfait qu'un cœur brisé, puisque qu'à titre les Mahors, le fait d'avoir un cœur brisé, ça nous amène directement vers le dévoilement de l'essence. Et là, de la même façon, on voit que le chassid, il n'était pas encore prêt, et à partir du moment où il s'est brisé, où il a pleuré, où il a fondu en larmes, il était prêt à ce moment-là pour recevoir la bracha du Rabbi. Donc cette histoire-là, elle s'accorde aussi avec une histoire que le Rabbi nous rapporte dans le Dvar Malchut. Le Rabbi raconte que lors d'un Farbrengen autour du Rabbi Rachab, tous les chassidim, tous les jeunes chassidim, avant d'écouter le discours, le Mahamar du Rabbi, ils se sont mis à chanter le Nigoun qui précède, le chant qui précède, la mélodie chassidique qui précède le moment où le Rabbi il va réciter son Mahamar, son discours chassidique. Et quand ils ont chanté le Nigoun, comme ils étaient tellement pressés d'entendre le Rabbi, alors ils ont bâclé le Nigoun, ils n'ont pas chanté vraiment avec Havana, ils n'ont pas chanté en s'investissant de manière véritable dans le chant lui-même. Et le Rabbi l'a senti. Le Rabbi a senti, et il a entendu, non pas un nigoun comme il doit être chanté, mais il a entendu l'impatience. L'impatience, elle transperçait le chant des chassidim. Et au lieu de dire le discours chassidique, au lieu de commencer à prononcer le Mahamar, le Rabbi s'est mis à parler à ces jeunes chassidim. Et il leur a expliqué l'importance qu'on doit attacher à tout ce qui est préparatoire à un événement. En l'occurrence ici, le Nigoun, c'est une introduction au Mahamar, c'est une préparation au Mahamar, mais ça ne signifie pas que l'on ne doit pas s'investir de manière profonde au moment où on chante le Nigoun. En fait, dans les mots du Rabbi Rachab lui-même, le Rabbi Rachab, il déclare « Bichlal zehu ikar gadol » C'est un principe essentiel et grand qu'à l'endroit où on se trouve, on doit se trouver véritablement. On doit être là, vraiment, on doit vivre véritablement le moment que l'on est en train de vivre. On doit saisir la profondeur de ce moment. Ça, il y a une histoire avec le Rabbi Rayatz, justement. Un jour où il s'apprêtait, il était comme ça dans une situation, on peut dire, pleine de turbulences, puisqu'il venait d'arriver dans sa maison, et il était sur le point de repartir à la gare pour effectuer un nouveau voyage, et il y avait cette personne-là, cette période de battement, donc entre ces deux moments, et le Rabbi lui-même, il a observé son beau-père, et il a vu à quel point il était calme. Alors il est allé le voir, et il lui a demandé « Comment pouvez-vous être aussi calme dans une situation aussi difficile ?» Et le Rabbi Rayatz lui a répondu « Quand on vit intensément le moment présent, alors le moment présent devient éternel. » On doit savoir saisir, on doit savoir appréhender, ressentir et exploiter chaque moment de l'existence. À partir du moment où on vit intensément un moment, alors ce moment-là, il devient éternel. Et c'est l'enseignement que le Rabbi Rachab il a délivré à ses chassidim. Il leur a expliqué que pour parvenir à un but, pour parvenir en l'occurrence ici à recevoir sa parole, à recevoir et intégrer profondément le Mahamar chassidique, le chassid, il doit se préparer convenablement à ce moment-là et de quelle manière, justement, en chantant le nigoun, en chantant cette mélodie chassidique, en s'investissant avec toutes les forces de son âme. Le Rabbi nous rapporte cette histoire dans le Dvar Malchut parce qu'elle illustre l'enseignement qui suit. Elle illustre l'enseignement au sujet du partage de la terre d'Israël, puisqu'on sait que donc la Torah elle nous apprend que la terre d'Israël, on a fait le partage de la terre d'Israël au moyen d'un goral. Alors comment ça se passait? Ça se passait d'abord, Eléazar, le prêtre, il disait chaque nom des tribus avec le roi Hakodesh, et il disait le territoire qui lui était attribué. Puis on avait préalablement mélangé dans une urne 12 billets sur lesquels était inscrit le nom de chaque tribu, et sur 12 autres billets étaient inscrits les délimitations des terrains. Alors on mélangeait ces 24 billets dans une urne, et quand le prince de la tribu venait, il tirait au sort 2 billets, et c'était exactement, sur les billets, il était inscrit exactement ce qu'avait dit auparavant Eléazar à Cohen, quand il avait déclaré « telle tribu aura tel territoire ». Mais là, ce qui est intéressant, et le miracle qui se produisait à ce moment-là, c'est que le goral lui-même y parlait. C'est-à-dire que le billet sur lequel on avait écrit le nom de la tribu et le nom sur notre billet du terrain en question, il correspondait exactement à la parole du Cohen, et il parlait lui-même. Le billet, il parlait. Les mots, il parlait. Les mots eux-mêmes parlaient. Les mots qui étaient inscrits sur le billet parlaient. Alors le rabbi, il vient expliquer deux choses fondamentales. Il vient nous dire d'abord que le Gora lui-même, il constitue qu'une préparation à l'acquisition de la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'on se préparait à acquérir la terre d'Israël. Chaque tribu, chaque territoire était attribué au moyen du goral. Donc on voit que le goral lui-même, ce n'est qu'une préparation pour accéder à l'acquisition de la terre d'Israël. Cependant, le rabbi nous a raconté l'histoire du Nigoun avec le rabbi Rachab et les Chassidim pour signifier, pour exprimer l'idée que toute préparation à un événement, elle est fondamentale. En l'occurrence ici, on voit, et c'est ça le point qui est souligné par le rabbi, on voit que le goral lui-même parlait. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les commandements divins, en général, on les accomplit au moyen de la pensée, donc on voit ça s'exprime plus particulièrement par la tefila, par la prière, au moyen de la parole, ça c'est l'étude de la Torah, et au moyen de l'action, c'est l'application concrète des commandements divins. Mais on voit aussi qu'il y a des mitzvot qu'on peut accomplir seulement au moyen de l'action, comme par exemple la tzedaka. C'était le sujet du Dvar Malchut d'ailleurs précédent. On avait expliqué que le rabbi, il avait dit que de quelle manière on se rend quitte de la mitzvah de la tzedaka, c'est quand on donne de l'argent. C'est donc l'action qui est soulignée ici. On met l'importance, c'est qu'un pauvre, il reçoive de l'argent de manière concrète. Donc c'est pas vraiment l'intention qu'on a au moment où on donne de la tzedaka. C'est-à-dire que quand on donne de la tzedaka, on est quitte de la kavana. On n'est pas obligé d'avoir une intention particulière, une kavana profonde. L'essentiel, c'est l'action. L'essentiel, c'est de donner. Cependant, le rabbi, il dit que chaque commandement qu'on accomplit, la perfection de l'accomplissement de ce commandement, c'est quand, justement, on l'accomplit au moyen de la pensée, de la parole et de l'action. Dans le cas de la tzedaka, ça signifie que on doit associer à l'action la kavana, c'est-à-dire qu'on doit non seulement donner de l'argent à un pauvre, mais on doit aussi ressentir une kavana, on doit avoir une pensée profonde, une pensée bienveillante vis-à-vis de son prochain. De quelle manière? On doit lui donner avec un visage souriant. Donc on voit que la perfection des commandements, on l'accomplit, on parvient à l'atteindre quand on s'investit dans les trois vêtements, dans la pensée, dans la parole et dans l'acte. À ce moment-là, on arrive à la perfection. Et le goral, lui-même, il réunit ces trois éléments. Pourquoi? Parce que on pense, et on a la kavana, on écrit en écrivant chaque nom sur un billet. Le fait d'écrire lui-même, ça correspond à l'action. Et en plus de ça, la parole, puisque le goral, il se mettait à parler, il criait, il disait, telle tribu aura tel territoire. Donc on voit que le goral lui-même, il exprime l'idée qu'un juif, il doit accomplir dans toute préparation, puisque le goral lui-même est une préparation à l'acquisition de la terre d'Israël, il doit, au moment de toute préparation, investir toutes les forces de son âme, aussi bien par la pensée que par la parole, que par l'action. Alors on peut comprendre à présent pourquoi le rabbi, vraiment, il a rapporté cette histoire du Nigoun avec les chassidim du rabbi Rachab, mais on pourrait aussi apporter un chidouche et dire que si on observe bien, le mot nigun, il a pour valeur numérique 119. Et 119, c'est aussi la valeur numérique du mot dima, larme. Donc on voit le rapport qui existe entre les deux. Entre le mot larme, qui désigne vraiment l'émotion, ce qui provient du cœur, de la profondeur du cœur, et le nigun, puisque le nigun doit être chanté avec toute la profondeur du cœur. Il doit être ressenti, il doit être chanté avec émotion. Il y a un rapport qui existe entre ces deux mots, entre le sens de chacun de ces deux mots, entre le mot larme et le mot nigun. Et ces deux mots-là, parce qu'ils ont tous les deux la même valeur numérique, ils indiquent tous les deux qu'on atteint la perfection à partir du moment où on associe l'émotion avec l'action. Et donc ça, le mot larme, une larme en soi, ça a une valeur numérique de 119, mais si on associe à cette émotion-là vraiment un sentiment de teshuvah, alors on parvient à la perfection, on parvient au chiffre 120, on ajoute 1 au chiffre 119, ça devient le chiffre 120 qui représente dans la Torah une vie entière. Admea ve'esrim, ça représente l'âge de Moshe, il représente la perfection qui est atteinte. Au moment où Moshe il a quitté ce monde, il avait atteint vraiment la perfection, puisqu'il est parti par un baiser de Dieu. Donc ce baiser de Dieu, ça rappelle même l'histoire chassidique du baiser chassidique, quand le rabbi Rachab, il regardait le rabbi Rayat, c'était alors un bébé, il a regardé dans son berceau, il a eu envie de l'embrasser, et au lieu de l'embrasser, il a écrit un discours chassidique. Alors on explique, le rabbi l'explique, que le discours chassidique qu'il a écrit, ça s'appelle un baiser chassidique. C'est-à-dire que dans le mamar du rabbi qu'il a écrit pour son enfant, était contenu toute son émotion. Toute l'émotion, toute l'envie, tout le désir qu'il avait d'embrasser son fils, il a investi dans ce mamar. Donc on voit que le rapport qui existe entre le nigun lui-même, qui représente vraiment l'introduction au mamar, et le mahamar lui-même, on voit l'importance d'associer l'émotion à l'action concrète. Et de là, on pourrait faire même une comparaison entre le discours du rabbi, le mahamar, et le jour de Rosh Hashanah. Puisque le jour de Rosh Hashanah, au moment où on prie pendant tout le mois d'Elul, on prie et le roi est dans les champs, et on investit tous nos sentiments, notre sentiment de Teshuvah pour, et on proclame vraiment pendant les fêtes de Tishri, on demande, on implore Dieu d'être roi sur nous. À ce moment-là, de quelle manière on exprime ce désir-là? C'est en sonnant du shofar. Et donc le shofar, il lui-même, il représente un cri. C'est le Baal Shem Tov qui a expliqué. C'est le fait d'appeler son père, papa. C'est un cri qui vient de la profondeur du cœur, les larmes, comme on l'a dit, Dima. C'est un cri qui ne peut pas être exprimé par des mots, puisque c'est au-delà de l'intellect. Le son du shofar, c'est ce son-là qui va attirer ensuite la lumière nouvelle que Dieu il va donner dans le monde, qui va investir pour la nouvelle année. Donc on voit que le son du shofar, lui-même, il vient du peuple d'Israël, il vient du plus profond de l'essence de l'âme juive, et il a pour effet d'attirer la profondeur, comme il dit le Tzemar Tzedek. La profondeur attire la profondeur. La profondeur de l'âme des enfants d'Israël a le pouvoir d'attirer la profondeur de la lumière divine que Dieu il va dispenser dans tous les mondes et dans ce monde dans lequel on vit. De la même façon, on pourrait comparer le son du shofar au nigun. Le nigun lui-même, il doit venir de la profondeur du cœur des chassidim, et il a le pouvoir d'attirer la profondeur du rabbi, puisque c'est le rabbi, il a besoin d'entendre aussi, ça, on doit bien comprendre ça, il a besoin d'entendre cette émotion qui vient du cœur de ses chassidim, qui va lui donner l'inspiration pour dire son discours vraiment. Donc on voit que le nigun, c'est pas seulement une introduction au mahamar du rabbi, mais il fait un avec le mahamar du rabbi. De la même façon, le son du shofar, il fait un avec la lumière nouvelle que Dieu y dispense au moment de Rosh Hashanah. Alors cette idée-là, elle est fondamentale, puisque le rabbi, finalement, il nous apprend qu'est-ce que c'est un chassid, qu'est-ce que c'est un homme qui est profond. La profondeur, ça provient du fait qu'un chassid, il va investir toutes les forces de son âme pour vivre chaque moment, même si c'est un moment qui lui semble une préparation et qui n'est qu'un détail à ses yeux, il doit être profond, il doit vivre chaque moment de son existence pour accéder à la terre d'Israël. Et c'est pour ça que le rabbi nous raconte l'histoire du Tzemar Tzedek et du chassid qui est allé voir le Tzemar Tzedek, qui lui a demandé une bracha pour aller en Eretz Israël. Qu'est-ce que lui a répondu le Tzemar Tzedek? Il lui a répondu, pourquoi tu veux aller en Eretz Israël? Fais ici Eretz Israël. Donc c'est, d'une certaine manière, on voit la correspondance avec l'histoire du Nigoun, puisque fais ici la terre d'Israël, ça veut dire, vis le moment présent, vis le moment de l'exil même dans lequel tu te trouves. L'exil, bien que ce soit une préparation à la Géoula, malgré tout, il doit être vécu au moyen de toutes les forces de ton âme. Fais ici la terre d'Israël. N'attends pas d'aller en Eretz Israël pour faire la terre d'Israël. D'ailleurs, même le rabbi lui-même, il a dit qu'on devait faire Eretz Israël en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'on doit toujours aller de prodige en prodige, et on doit utiliser chaque situation de notre vie, quel que soit l'endroit où on se trouve. L'acquisition de la terre d'Israël, le rabbi explique que pour acquérir la terre d'Israël, on doit vraiment mener le combat de Dieu, mener une guerre. Alors de la même façon que dans une guerre matérielle, on doit investir tous les territoires et on ne doit pas laisser un seul territoire à l'ennemi, puisqu'on peut craindre que si on lui laisse un endroit, alors il risque de se rebeller ensuite contre nous. Donc on doit acquérir tout l'ensemble de toute la terre qu'on veut conquérir. Et la deuxième condition, c'est d'investir, de vraiment faire mener le combat de Dieu au moyen de toutes les forces de notre âme. Et de la même façon, de manière spirituelle, on doit ne négliger aucun sujet, c'est-à-dire que la sainteté, elle est comparée à la terre d'Israël, on doit l'acquérir dans tous ses détails, dans toutes les situations, comme on l'a expliqué, pour que toute préparation contient un contenu profond qu'on doit savoir saisir, et au moyen de toutes les forces de notre âme, comme on l'a dit, d'accomplir les commandements divins par la pensée, par la parole et l'action, sans rien négliger, sans jamais négliger aucun détail. Donc le Tzemar Tzedek, il vient nous apprendre qu'on doit faire ici la terre d'Israël. Donc il s'adresse pas seulement à son chassid, mais il s'adresse à tous les juifs. Et le point qui est vraiment donné ici par le rabbi, et qui est magnifique, qui est vraiment remarquable, quelque chose de vraiment incroyable, c'est qu'il dit que on ne doit pas se dire, voilà, j'habite dans un endroit qui est perdu, dans un endroit, personne ne me connaît, je suis ignoré de tous. Comment, à mon endroit, je peux provoquer la délivrance? Et le rabbi vient nous dire que le Tzemar Tzedek, il s'adresse à nous à ce moment-là, il nous dit, fais ici la terre d'Israël. Et là, il vient dire quelque chose vraiment de remarquable, il vient nous dire que l'endroit où on se trouve, le monde entier est inclus dans cet endroit. Alors là, c'est pas seulement, on doit pas seulement comprendre que l'endroit où on se trouve, on parle d'un endroit physique, si on se trouve dans un désert, mais c'est aussi vrai, c'est-à-dire que quand un juif il est dans le désert, il doit se dire que le monde entier est inclus dans cet endroit où il se trouve, même s'il s'agit d'un désert. Et le fait d'élever la partie qui lui correspond, dans laquelle il se trouve, il élève le monde entier. Mais c'est aussi vrai dans une situation morale. L'endroit où tu te trouves spirituellement, cet endroit-là, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois l'élever, et tu dois l'élever au moyen de toutes les parties de ton âme, au moyen de la partie révélée de ton âme, et au moyen des forces profonde de ton âme, en dévoilant les sens de ton âme vraiment, et tu dois faire ici la terre d'Israël. C'est-à-dire que tu dois faire en toi-même la terre d'Israël. Cette idée-là, évidemment, elle s'accorde avec l'idée que l'âme juive, c'est Chelek Elokam Imal Mamash, puisque c'est une partie, l'essence de l'âme juive, c'est une partie qui fait un avec Dieu, c'est une partie qui est au-delà de ce monde, et ça, le rabbi, il a expliqué que Israël précède même la Torah, puisque Dieu, il a regardé dans la Torah, s'il avait créé le monde, mais avant de regarder dans la Torah, il a demandé conseil à l'âme juive s'il fallait oui ou non créer le monde. Donc on voit que un juif, son âme est fait un avec Dieu, donc il ne doit pas du tout être impressionné par ce monde-là, puisque l'âme juive précède ce monde-là, elle a le moyen d'être au-delà de ce monde et de considérer ce monde vraiment comme quelque chose qui doit être élevé, et qu'il possède les moyens juste précisément pour l'élever. Pour citer les mots que le rabbi donne, il dit « Kevan shebechelko aprati shel kol yehudi klulim kol chelke haolam ». C'est vraiment très beau ce que le rabbi nous dit ici, et c'est chargé de sens vraiment, puisque dans la part particulière qui est donnée à chaque juif, est inclus toutes les parties de ce monde. Donc on voit ici la qualité de l'âme juive, qui est au-delà de la Hitralkout, au-delà du partage. L'essence de l'âme, elle est au-delà, elle s'habille pas dans le corps, elle est autour du corps, elle s'habille comme le rabbi Lannemar Mitzahi l'a expliqué, qu'elle se trouve dans les Arba Amot qui nous entourent, dans les quatre coudées qui nous entourent, sur la terre qui nous entoure, et elle ne s'habille pas dans le corps. Malgré tout, le rabbi dit qu'on doit dévoiler cette force-là, la force de l'essence de l'âme, afin qu'elle illumine nos pensées, nos paroles et nos actes. Mais cette idée-là que l'âme, l'essence de l'âme, elle nous entoure, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, qui s'accorde avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est que l'Admor Hamesaé, il explique que quand un juif, il est Chutz Laaretz, en dehors de la terre d'Israël, par le simple fait de marcher, il transforme l'espace physique dans lequel il se trouve. Pour quelle raison? Parce que l'essence de son âme, elle est sur la terre qui l'entoure, dans les quatre coudées qui l'entourent, et le fait de marcher, l'essence de son âme, elle va se répandre sur la terre, et comme l'essence de l'âme, elle est enracinée dans l'essence divine, à ce moment-là, le simple fait de marcher, il purifie la terre sur laquelle il se trouve. Donc ça, c'est ça aussi, faire la terre d'Israël, c'est révéler le dévoilement, c'est dévoiler l'essence de notre âme juive par le simple fait de marcher. Et Dieu sait qu'il existe beaucoup d'histoires, on sait que le Rabbi Reatz, il envoie voyez ces chassidim en leur disant que même le simple fait de marcher dans la rue, ça avait pour effet de purifier l'atmosphère et de provoquer la délivrance. Pour finir, on pourrait revenir à cette histoire-là, justement, du Rabbi Rachav qui reçoit son chassid et il attendait qu'il ait le cœur brisé pour pouvoir le bénir. Et on pourrait se rappeler ici d'un enseignement de la chassidoute. On raconte que et on explique qu'un chassid, un grand chassid, quand on va voir le rabbi pour lui demander une bracha, le rabbi il a besoin de l'humilité du chassid. C'est-à-dire que le fait que le rabbi ensuite, il a le roi HaKodesh au moment où il donne la bracha, ça provient du fait qu'il constate et qu'il voit dans son chassid l'humilité. Quand un chassid il se présente devant le rabbi, il doit avoir un cœur humble et contrit. C'est précisément ce cœur humble et contrit qu'a Tit le Maor qui va révéler l'essence, comme on l'a vu pour le chauffard de Rosh Hashanah, et comme on le voit pour le Mahamar, le Nigun qu'on chante avant d'entendre les paroles du rabbi, et comme on le voit quand les pleurs d'un chassid qui rentre chez le rabbi Rachab, qui vont susciter le roi HaKodesh, le désir du rabbi et le contenu de sa bénédiction. Donc c'est l'histoire de tous ces enseignements de notre paracha, ils nous conduisent vers ce point-là, vers la profondeur d'un chassid vis-à-vis de son rabbi. C'est précisément la profondeur qui attire la profondeur, et c'est la profondeur dans nos pensées, dans nos paroles et nos actes qui vont attirer le dévoilement du Machar dès à présent avec les deux dieux. Shabbat Shalom, Mevorach.